Destination Compostelle, une émission préparée par Martine Dufour.
Ça m'est venu comme ça. J'en avais entendu parler, j'ai commencé à m'équiper et à m'entraîner. On ne revient pas intact d'un tel voyage. On change obligatoirement, tellement c'est grand. En 60 jours de marche, on a le temps de penser, de faire le vide, de rencontrer l'autre. Ne rêve pas ta vie. Mais vis ton rêve. Guy Victor, mai 2026. Croyant sans être réellement pratiquant, il ne marchait pratiquement pas. Mais il repart, à 81 ans, sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Étape Sog le Sauvage, 20 km. À la sortie du bourg, le GR65 traverse la Seuge, S-E-U-G-E, dont on dit qu'elle ne peut déborder en cas de forte pluie et qu'on le retrouvera bien plus haut sur le parcours. Aujourd'hui, la rivière est sage, comme une image. Ici, d'étranges sculptures de bois rappellent les mystères cachés dans le Gévaudan. Pourtant, celles que nous voyons n'ont rien d'effrayant. Ce n'est qu'une dame qui lave son linge près d'un parterre de fleurs. Rapidement, après un passage sur la route départementale, le GR65 s'en va en montant en pente douce vers le Pinet, en pleine campagne. Il suit un moment la route qui s'en va dans les lotissements récents au bord de la rivière, puis trouve un large chemin de terre. Ici, c'est la vraie vie de paysan, sans phare. La région exhibe le quotidien de la vie rurale ordinaire. Les paysans doivent être aussi sévères et réservés que le granit de leur maison. Par bonheur, le bétail distille son charme sur cet immense espace ouvert. Les troupeaux de moutons abondent dans les prairies. La route se met à monter dans la campagne ouverte, mais la pente n'est pas très rude. On rencontre de nombreux frênes dans ces prairies. Ceci s'explique aisément. Jadis, les fruits des frênes étaient utilisés comme complément alimentaire pour le bétail. On en a donc planté à profusion. Même si aujourd'hui ils sont avant tout décoratifs. Mais quels beaux arbres d'ornement! Plus haut, une bifurcation avec une croix de fer plantée dans le granit. Beaucoup de croix sur le chemin. Les croix se dressent comme des fanaux au sein des tempêtes, indiquant l'entrée des ports comme autant de jalons sur le chemin, protégeant le voyageur. Ici, la route prend la direction du Pinet, dans une campagne douce, calme, avec des vaches aubrac et charolaises qui batifolent au-dessus. Peu après, la route arrive aux premières fermes du Pinet. Nous avons laissé derrière nous les pierres volcaniques du Dévès, puis pour le granit de la Bargeride. Mais c'est tout autant empreint de majesté et de robustesse. Et la route passe au cœur du hameau. Une poignée de grosses fermes que le ciseau des tailleurs a tranchées dans le flanc le plus pur du granit. dans cette pierre compacte, dure et éternelle, les cordes fermes fleurent bon le bétail et la bonne terre. Au sortir du Pinet, une large route de terre battue va musarder longtemps dans les prairies, avec par-ci, par-là, quelques bouquets de frênes et des érables solitaires. Les genêts et les ronces meublent aussi les talus. Parfois, le bétail lorne les pèlerins qui passent, parfois il détourne le regard. Le chemin se balade longtemps entre prairies et forêts de pins, sans vraiment jamais y pénétrer. Plus loin, ce sont des champs de seigle au pied des épicéas et des pins. Le seigle, c'est le blé de Sogue. Mais ce ne sont jamais de grands champs et les bosquets laissent peu de place aux paysans. Les grands pins prennent la place des arbustes et le sous-sol se teinte de brun. Puis la terre cède progressivement le pas à la forêt, du côté des pendus et du champ roussi. La colline se love en courbes douces, en vallons arrondis, ses flancs offerts au soleil ou au crachin, c'est selon. Dans ces cathédrales de verdure, même les aubraques, d'ordinaire si chaleureuses, s'indiffèrent parfois du pèlerin qui chemine. Parfois, une brise légère donne à la forêt la respiration profonde du dormeur.
Cette société si vaste qu'on s'y perd, aux êtres un pionnier à l'âme aventurière, prêt à réinventer les valeurs, les repères, pour tenter de former un monde solidaire. Oser prendre la route, oser risquer ses choix, tous les doutes qui enchaînent nos pas sur la terre d'aujourd'hui, créer nos lendemains, révéler les trésors qui sommeillent en nos mains. Ah, ils sommeillent en tes mains. Ce monde qui est le tien, d'idées et un cœur qui espère faire germer des projets sur de nouvelles terres pour cultiver la paix par-delà les frontières. Il faut oser braver les horreurs et les guerres, oser tout, oser prendre la route, oser risquer ses choix, surpasser tous les doutes qui enchaînent nos pas sur la terre d'aujourd'hui, créer nos lendemains, révéler les trésors qui sommeillent en nos mains. Ah, ils sommeillent en tes mains. Ah, ce monde qui est le tien. Au progrès, admettre de se taire. La terre vient demander de toi un souffle d'air, du respect des idées, des efforts volontaires. Oser tout, oser prendre la route, oser risquer ses choix, surpasser tous les doutes. Aujourd'hui.
Le large chemin de terre ondule avec douceur, passant de la forêt de pins à des clairières, pour revenir plus loin dans les bois. Les pins sont tous dressés, fins et élancés, se haussant vers la lumière. Après être monté sans s'en apercevoir plus d'un kilomètre, le GR65 redescend doucement vers la Seuge. Le chemin côtoie sans cesse le mystère caché ici depuis des siècles, celui des loups, des sorcières et des dieux. Alors le chemin sort progressivement des pins. Les frênes et les érables refont leur apparition. Plus loin, le chemin passe au lieu-dit le champ du croc. Dans le pays, ce ne sont que de petits hameaux aussi tranquilles que les bois autour. Chemin faisant, encore une belle maison de granit. Dans ces pays où pas grand-chose se passe, on ne sait jamais si ces belles demeures sont encore habitées ou si elles ne sont que des résidences secondaires. Plus bas, le GR65 retrouve la Seuge et la traverse. Il faut se pencher pour voir un filet d'eau couler. Après le ruisseau, le chemin remonte un peu plus vers sur la terre battue dans une grande clairière, puis dans la campagne vers la close. Parfois, quelques barbelés sur les murets de pierre ponctuent les prairies sous les frênes. À l'approche du hameau, le goudron reprend ses droits. Il en est toujours ainsi. Les tracteurs, à la différence des pèlerins, n'aiment guère s'enliser dans la boue. La colline de granit de la Close porte une tour heptagonale, fière, reflétant l'affirmation d'un pouvoir seigneurial qui régnait ici à l'époque. À la Close, le granit est partout. Dans sa tour du XIIe siècle, dans le refuge de la maison béate, dans les maisons du village, dans la fontaine, ainsi que sur le somptueux travail à ferrer les bœufs. Les béates appartenaient à une institution laïque du XVIIe siècle. Elles étaient des catéchumènes, jouant le rôle d'infirmières, de femmes de ménage, assistant les mourants, prêtant attention aux faibles, veillant aux bons soins des communautés villageoises. Mais voilà, ces refuges servent encore aujourd'hui à des pèlerins, souvent jeunes et assez désargentés. Cela leur fait une nuit gratuite. Il y a même une cuisinette. Beaucoup de maisons sont en ruine ou inhabitées dans le village. La pierre est vraiment omniprésente dans les constructions du pays. Ici, ce n'est pas le trajet le plus enthousiasmant de l'étape, car le GR65 suit la route. Mais le pèlerin n'est pas vraiment dérangé par le trafic. Nous sommes en rase campagne, mais la campagne est belle, loin de toute civilisation, avec au loin parfois de toutes petites fermes isolées, un champ de seigle par-ci par-là, quelques troupeaux sages dans les prés. Le parcours ondule sur le goudron, dans les pâturages de la colline boisée, puis monte en pente plus soutenue, quelques centaines de mètres. C'est dans ces endroits de grande solitude que les pèlerins, engoncés dans leurs pensées, lèvent parfois les yeux pour voir leur progression sur le chemin. Au sommet de la colline, le GR65 quitte la route où rarement un véhicule transite. Quitte la route pour une autre petite route qui descend en pente douce vers le Falset. La route descend dans le petit vallon. La végétation devient dense et on voit aussi apparaître de grands charmes et de dodus hêtres à l'approche du Falset. au Falzédonc, une ferme Bonheur sert de buvette avec les produits de la ferme. On ne dira jamais assez le plaisir intense qui se dégage de ces havres de paix et de réconfort dans la dure journée du pèlerin. À la sortie du village, le GR65 fait encore quelques centaines de mètres sur la route avant d'emprunter un large chemin de terre battue qui monte vers le Villeray d'Apché. C'est alors à nouveau la campagne intacte, ces prairies limitées à demeure par les fils de fer barbelés pour contenir le bétail, ponctuées de ci, de là, par des frênes, des érables ou des hêtres solitaires. Le chemin descend alors en pente douce vers le Villeray d'Apché, le village de Jacques Portefait qui sauva d'une horrible mort sa sœur attaquée par la bête. Dans ces villages, on a parfois le sentiment que les maisons nous attendent, qu'elles nous parlent, prêtes à nous livrer le secret de leurs pierres jointoyées à la chaux ou au mortier. À la sortie du village, au bout de quelques venelles tortueuses, le GR65 descend raide à plus de 15% sur le goudron vers la Virlange qui coule au bas du village. Il faut dire que le chemin de Compostelle offre tous les jours des surprises. Il descend presque toujours vers une rivière pour remonter ensuite. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il n'y a ni sévère descente, ni montée trop exigeante, juste quelques kilomètres de campagne ondulante et de bois ombrés. Le GR65 fait encore quelques pas sur le goudron dans une petite plaine avant de traverser la Virlange. Rapidement, après le ruisseau, le GR65 remonte en pente soutenue sur un large chemin de terre. La montée n'est pas trop longue et le chemin redescend de la colline en pente douce. Au lieu-dit le moulin du pain, le chemin remonte sur le flanc de la colline. Pendant près d'un kilomètre, le chemin de terre va monter en pente douce vers le fond du haut plateau en pleine campagne. On se rapproche sur sa droite de Chanaleil. L'église, avec son clocher en peigne, est remarquable. Depuis Contaldès, le chemin reprend ses droits et monte le long de sous-bois de frêne dans la Charmille et les Genêts. La pente est à nouveau plus soutenue par endroits. Plus haut, le chemin passe bientôt au village de Chazeau, joli petit village de pierre, comme le sont tous les hameaux de la région. De nombreux pèlerins s'arrêtent ici pour se restaurer avant d'affronter la dernière montée qui conduit au sauvage. Peu au-dessus du village, la route passe au lieu-dit La Sagne, à 1170 mètres d'altitude, à près de 5 km du sauvage. Le sentier s'enfonce dans l'obscurité d'un nouveau vallon boisé. Nous montons au point culminant de la journée. Le sentier zigzague entre les pins, les hêtres et la végétation rase. Bien serrés les uns contre les autres, les arbres laissent à peine se faufiler le chemin tortueux qui mène sur le plateau. Au lieu dit Ranchoulé, le chemin entre en forêt, quitte le large chemin de terre pour un sentier forestier beaucoup plus étroit, qui se tord le long de la crête, au milieu des hêtres et des conifères. Le chemin, parfois un peu pierreux, s'entortille dans la forêt, direction du Buron du Sauvage. Il est assez sage, parfois un peu plus pentu. Bientôt, le chemin sort du bois, s'ouvre sur le haut plateau comme une fenêtre sur la cime de la montagne, dans la grandiose beauté du domaine du sauvage, que l'on devine un kilomètre plus loin. Et voilà, nous sommes au lieu-dit le Buron du Sauvage, à 1320 mètres d'altitude, le point le plus haut de l'étape. Le sauvage apparaît à l'horizon comme un petit point perdu dans une énorme clairière de pâturage. Le large chemin de terre traverse le vaste pâturage, passe devant le Buron. Les Burons sont des cabanes de bergers en pierre, très caractéristiques de la région. Et nous sommes au sauvage. Le sauvage, c'est paysanne, la seule trace humaine à des kilomètres à la ronde. Encore quelques centaines de mètres sur le chemin de terre et le chemin arrive au sauvage. Le domaine du sauvage est situé dans le massif granitique de la Margeride, entre le signal de Randon et le mont Mouché. La ferme occupe plus de 800 hectares. Le domaine, lui, a servi de tout temps à recevoir des pèlerins et aujourd'hui des marcheurs. Oui, il faut s'arrêter ici, il n'y a guère de doute, si on a su réserver sa place à temps.
Thank you.
Destination Compostelle, une émission préparée par Martine Dufour.